Jamais on ne sut comment Madame Sidonie flaira cette bonne affaire. L'honneur des Béraud avait traîné dans son panier avec les protées de toutes les filles de Paris. Quand elle connut l'histoire, elle imposa presque son frère, dont la femme agonisait. La tante Élisabeth finit par croire qu'elle était l'obligée de cette dame si douce, si humble, qui se dévouait à la malheureuse Renée jusqu'à lui choisir un mari dans sa famille. La première entrevue de la tante et de Saccard eut lieu dans l'entresol de la rue du Faubourg Poissonnière. L'employé, qui était arrivé par la porte cochère de la rue Papillon, comprit, en voyant venir Madame Aubertot par la boutique et le petit escalier, le mécanisme ingénieux des deux entrées. Il fut plein de tact et de convenance. Il traita le mariage comme une affaire, mais en homme du monde qui réglerait ses dettes de jeu. La tante Élisabeth était beaucoup plus frissonnante que lui. Elle balbutiait, elle n'osait parler des 100 000 francs qu'elle avait promis. Ce fut lui qui entama le premier la question argent, de l'air d'un avoué discutant le cas d'un client. Selon lui, 100 000 francs étaient un apport ridicule pour le mari de Mademoiselle Renée. Il appuyait un peu sur ce mot « mademoiselle ». Monsieur Béraud du Châtel mépriserait davantage un gendre pauvre. Il l'accuserait d'avoir séduit sa fille pour sa fortune. Peut-être même aurait-il l'idée de faire secrètement une enquête. Madame Aubertot, effrayée, effarée par la parole calme et polie de Saccard, perdit la tête et consentit à doubler la somme quand il eut déclaré qu'à moins de 200 000 francs, il n'oserait jamais demander Renée, ne voulant pas être pris pour un indigne chasseur de dot. La bonne dame partit toute troublée, ne sachant plus ce qu'elle devait penser d'un garçon qui avait de telles indignations et qui acceptait un pareil marché. Cette première entrevue fut suivie d'une visite officielle que la tante Élisabeth fit à Aristide Saccard, à son appartement de la rue Payenne. Cette fois, elle venait au nom de M. Béraud. L'ancien magistrat avait refusé de voir « cet homme », comme il appelait le séducteur de sa fille, tant qu'il ne serait pas marié avec Renée, à laquelle il avait d'ailleurs également défendu sa porte. Madame Aubertot avait de plein pouvoir pour traiter. Elle parut heureuse du luxe de l'employé. Elle avait craint que le frère de cette Madame Sidonie, aux jupes fripées, ne fût un goujat. Il la reçut, drapée dans une délicieuse robe de chambre. C'était l'heure où les aventuriers du 2 décembre, après avoir payé leurs dettes, jetaient dans les égouts leurs bottes éculées, leurs redingotes blanchies aux coutures, rasaient leur barbe de 8 jours et devenaient des hommes comme il faut. Saccard entrait enfin dans la bande. Il se nettoyait les ongles et ne se lavait plus qu'avec des poudres et des parfums inestimables. Il fut galant. Il changea de tactique, se montra d'un désintéressement prodigieux. Quand la vieille dame parla du contrat, il fit un geste comme pour dire que peu lui importait. Depuis 8 jours, il feuilletait le code. Il méditait sur cette grave question dont dépendait dans l'avenir sa liberté de tripoteur d'affaires. « Par grâce, dit-il, finissons-en avec cette désagréable question d'argent. Mon avis est que Mademoiselle Renée doit rester maîtresse de sa fortune et moi maître de la mienne. Le notaire arrangera cela. » La tante Élisabeth approuva cette façon de voir. Elle tremblait que ce garçon dont elle sentait vaguement la main de fer ne voulût mettre les doigts dans la dot de sa nièce. Elle parla ensuite de cette dot. « Mon frère, dit-elle, a une fortune qui consiste surtout en propriété et en immeubles. Il n'est pas homme à punir sa fille en rognant la part qu'il lui destinait. Il lui donne une propriété dans la Sologne, estimée à 300 000 francs, ainsi qu'une maison située à Paris, qu'on évalue environ à 200 000 francs. Saccard fut ébloui. Il ne s'attendait pas à un tel chiffre. Il se tourna à demi pour ne pas laisser voir le flot de sang qui lui montait au visage. « Cela fait 500 000 francs, continua la tante. « Mais je ne dois pas vous cacher que la propriété de la Sologne ne rapporte que 2%. » Il sourit. Il répéta son geste de désintéressement, voulant dire que cela ne pouvait le toucher, puisqu'il refusait de s'immiscer dans la fortune de sa femme. Il avait dans son fauteuil une attitude d'adorable indifférence, distrait, jouant du pied avec sa pantoufle, paraissant écouter par pure politesse. Madame Oberto, avec sa bonté d'âme ordinaire, parlait difficilement, choisissait les termes pour ne pas le blesser. Elle reprit. « Enfin, je veux faire un cadeau à René. Je n'ai pas d'enfant, ma fortune reviendra un jour à mes nièces, et ce n'est pas parce que l'une d'elles est dans les larmes que je fermerai aujourd'hui la main. » « Celui de René consiste en vastes terrains situés du côté de Charonne, que je crois pouvoir évaluer à 200 000 francs. Seulement... » Au mot de terrain, Saccard avait eu un léger tressaillement. Sous son indifférence jouée, il écoutait avec une attention profonde. La tante Élisabeth se troublait, ne trouvait sans doute pas la phrase, et, en rougissant, « Seulement, continua-t-elle, je désire que la propriété de ces terrains soit reportée sur la tête du premier enfant de René. Vous comprendrez mon intention. Je ne veux pas que cet enfant puisse un jour être à votre charge. Dans le cas où il mourrait, René resterait seul propriétaire. » Il ne broncha pas, mais ses sourcils tendus annonçaient une grande préoccupation intérieure. Les terrains de Charonne éveillaient en lui un monde d'idées. Madame Oberto crut l'avoir blessée en parlant de l'enfant de René, et elle restait interdite, ne sachant comment reprendre l'entretien. « Vous ne m'avez pas dit dans quelle rue se trouve l'immeuble de 200 000 francs ? » demanda-t-il en reprenant son ton de bonhomie souriante. « Rue de la Pépinière, » répondit-elle. Presque au coin de la rue d'Astorg. » Cette simple phrase produisit sur lui un effet décisif. Il ne fut plus maître de son ravissement. Il rapprocha son fauteuil et, avec sa volubilité provençale, d'une voix câline, « Chère madame, est-ce bien fini? Parlerons-nous encore de ce maudit argent? Tenez, je veux me confesser en toute franchise. Car je serais au désespoir si je ne méritais pas votre estime. J'ai perdu ma femme dernièrement. J'ai 2 enfants sur les bras. Je suis pratique et raisonnable. En épousant votre nièce, je fais une bonne affaire pour tout le monde. S'il vous reste quelques préventions contre moi, vous me pardonnerez plus tard, lorsque j'aurai séché les larmes de chacun et enrichi jusqu'à mes arrière-neveux. Le succès est une flamme dorée qui purifie tout. « Je veux que M. Béraud lui-même me tende la main et me remercie. » Il s'oubliait. Il parla longtemps ainsi, avec un cynisme railleur qui perçait par instants sous son air bonhomme. Il mit en avant son frère le député, son père le receveur particulier de Plassans. Il finit par faire la conquête de la tante Élisabeth, qui voyait avec une joie involontaire, sous les doigts de cet habile homme, le drame dont elle souffrait depuis un mois se terminer en une comédie presque gaie. Il fut convenu qu'on irait chez le notaire le lendemain. Dès que Madame Oberto se fut retirée, il se rendit à l'hôtel de ville. Il passa la journée à fouiller certains documents connus de lui. Chez le notaire, il éleva une difficulté. Il dit que la dot de René, ne se composant que de bien-fonds, il craignait pour elle beaucoup de tracas et qu'il croyait sage de vendre au moins l'immeuble de la rue de la Pépinière pour lui constituer une rente sur le grand livre. Madame Oberto voulut en référer à M. Béraud du Châtel, toujours cloîtré dans son appartement. Saccar se remit en course jusqu'au soir. Il alla rue de la Pépinière, il courut Paris de l'air songeur d'un général à la veille d'une bataille décisive. Le lendemain, Madame Auberteau dit que M. Béraud du Châtel s'en remettait complètement à elle. Le contrat fut rédigé sur les bases déjà débattues. Saccar apportait 200 000 francs, René avait en dot la propriété de la Sologne et l'immeuble de la rue de la Pépinière, qu'elle s'engageait à vendre. En outre, en cas de mort de son premier enfant, elle restait seule propriétaire des terrains de Charonne que lui donnait sa tante. Le contrat fut établi sur le régime de la séparation des biens, qui conserve aux époux l'entière administration de leur fortune. La tante Élisabeth, qui écoutait attentivement le notaire, parut satisfaite de ce régime, dont les dispositions semblaient assurer l'indépendance de sa nièce, en mettant sa fortune à l'abri de toute tentative. Saccar avait un vague sourire en voyant la bonne dame approuver chaque clause d'un signe de tête. Le mariage fut fixé au terme le plus court. Quand tout fut réglé, Saccar alla cérémonieusement annoncer à son frère Eugène son union avec Mademoiselle Renée Béraud du Châtel. Ce coup de maître étonna le député. Comme il laissait voir sa surprise, « Tu m'as dit de chercher, » dit l'employé, « j'ai cherché et j'ai trouvé. » Eugène, dérouté d'abord, entrevit alors la vérité et d'une voix charmante, « Allons, tu es un habile homme, tu viens me demander pour témoin, n'est-ce pas ? Compte sur moi. S'il le faut, je mènerai à ta noce tout le côté droit du corps législatif. Ça te poserait joliment. » Puis, comme il avait ouvert la porte, d'un ton plus bas, dit « Je ne veux pas trop me compromettre en ce moment, nous avons une loi fort dure à faire voter. » La grossesse, au moins, n'est pas trop avancée. Saccar lui jeta un regard si aigu qu'Eugène se dit en refermant la porte, « Voilà une plaisanterie qui me coûterait cher si je n'étais pas un rougon. » Le mariage eut lieu dans l'église Saint-Louis-en-Lille. Saccar et René ne se virent que la veille de ce grand jour. La scène se passa le soir, à la tombée de la nuit, dans une salle basse de l'hôtel Béraud. Ils s'examinèrent curieusement. René, depuis qu'on négociait son mariage, avait retrouvé son allure décervelée, sa tête folle. C'était une grande fille, d'une beauté exquise et turbulente, qui avait poussé librement dans ses caprices de pensionnaire. Elle trouva Saccar petit, laid, mais d'une laideur tourmentée et intelligente qui ne lui déplut pas. Il fut d'ailleurs parfait de ton et de manière. Lui fit une légère grimace en l'apercevant. Elle lui sembla sans doute trop grande, plus grande que lui. Ils échangèrent quelques paroles sans embarras. Si le père s'était trouvé là, il aurait pu croire, en effet, qu'ils se connaissaient depuis longtemps, qu'ils avaient derrière eux quelques fautes communes. La tante Élisabeth, présente à l'entretien, rougissait pour eux. Le lendemain du mariage, dont la présence d'Eugène Rougon, mise en vue par un récent discours, fit un événement dans l'île Saint-Louis, les deux nouveaux époux furent enfin admis en présence de M. Béraud du Châtel. René pleura en retrouvant son père vieilli, plus grave et plus morne. Saccar, que rien jusque-là n'avait décontenancé, fut glacé par la froideur et le demi-jour de l'appartement, par la sévérité triste de ce grand vieillard, dont l'œil perçant lui sembla fouiller sa conscience jusqu'au fond. L'ancien magistrat baisa lentement sa fille sur le front, comme pour lui dire qu'il lui pardonnait. Et, se tournant vers son gendre, « Monsieur, lui dit-il simplement, nous avons beaucoup souffert. Je compte que vous nous ferez oublier vos torts. » Il lui tendit la main, mais Saccar resta frissonnant. Il pensait que si M. Béraud du Châtel n'avait pas plié sous la douleur tragique de René, il aurait, d'un regard, d'un effort, mis à néant les manœuvres de Madame Sidonie. Celle-ci, après avoir rapproché son frère de la tante Élisabeth, s'était prudemment effacée. Elle n'était pas même venue au mariage. Il se montra très rond avec le vieillard, ayant lu dans son regard une surprise à voir le séducteur de sa fille, petit, laid, âgé de 40 ans. Les nouveaux mariés furent obligés de passer les premières nuits à l'hôtel Béraud. On avait, depuis 2 mois, éloigné Christine, pour que cet enfant de 14 ans ne soupçonnât rien du drame qui se passait dans cette maison calme et douce comme un cloître. Lorsqu'elle revint, elle resta tout interdite devant le mari de sa sœur, qu'elle trouva, elle aussi, vieux et laid. René seul ne paraissait pas trop s'apercevoir de l'âge ni de la figure chafouine de son mari. Elle le traitait sans mépris, comme sans tendresse, avec une tranquillité absolue, où perçait seulement parfois une pointe d'ironique dédain. Saccard se carrait, se mettait chez lui, et réellement, par sa verve, par sa rondeur, il gagnait peu à peu l'amitié de tout le monde. Quand ils partirent pour aller occuper un superbe appartement dans une maison neuve de la rue de Rivoli, le regard de M. Béraud du Châtel n'avait déjà plus d'étonnement. Et la petite Christine jouait avec son beau-frère comme avec un camarade. Renée était alors enceinte de 4 mois. Son mari allait l'envoyer à la campagne, comptant mentir ensuite sur l'âge de l'enfant, lorsque, selon les prévisions de Madame Sidonie, elle fit une fausse couche. Elle s'était tellement serrée pour dissimuler sa grossesse, qui d'ailleurs disparaissait sous l'ampleur de ses jupes, qu'elle fut obligée de garder le lit pendant plusieurs semaines. Il fut ravi de l'aventure. La fortune lui était enfin fidèle. Il avait fait un marché d'or, une dot superbe, une femme belle à le faire décorer en 6 mois, et pas la moindre charge. On lui avait acheté 200 000 francs son nom pour un foetus que la mère ne voulut pas même voir. Dès lors, il songea avec amour au terrain de Charonne. Mais pour le moment, il accordait tous ses soins à une spéculation qui devait être la base de sa fortune. Malgré la grande situation de la famille de sa femme, il ne donna pas immédiatement sa démission d'agent voyer. Il parla de travaux à finir, d'occupations à chercher. En réalité, il voulait rester jusqu'à la fin sur le champ de bataille où il jouait son premier coup de carte. Il était chez lui, il pouvait tricher plus à son aise. Le plan de fortune de l'agent voyer était simple et pratique. Maintenant qu'il avait en main plus d'argent qu'il n'en avait jamais rêvé pour commencer ses opérations, il comptait appliquer ses desseins en grand. Il connaissait son pari sur le bout du doigt. Il savait que la pluie d'or qui en battait les murs tomberait plus dru chaque jour. Les gens habiles n'avaient qu'à ouvrir les poches. Lui s'était mis parmi les habiles en lisant l'avenir dans les bureaux de l'hôtel de ville. Ses fonctions lui avaient appris ce qu'on peut voler dans l'achat et la vente des immeubles et des terrains. Il était au courant de toutes les escroqueries classiques. Il savait comment on revend pour 1 million ce qui a coûté 500 000 francs. Comment on paie le droit de crocheter les caisses de l'État qui sourit et ferme les yeux. Comment, en faisant passer un boulevard sur le ventre d'un vieux quartier, on jongle, aux applaudissements de toutes les dupes, avec les maisons à 6 étages. Et ce qui, à cette heure encore trouble, lorsque le chancre de la spéculation n'en était qu'à la période d'incubation, faisait de lui un terrible joueur, c'était qu'il en devinait plus long que ses chefs eux-mêmes sur l'avenir de moellons et de plâtres qui étaient réservés à Paris. Il avait tant fureté, réuni tant d'indices, qu'il aurait pu prophétiser le spectacle qu'offriraient les nouveaux quartiers en 1870. Dans les rues, parfois, il regardait certaines maisons d'un air singulier, comme des connaissances dont le sort, connu de lui seul, le touchait profondément. 2 mois avant la mort d'Angèle, il l'avait menée un dimanche au Butte Montmartre. La bonne femme adorait manger au restaurant. Elle était heureuse lorsqu'après une longue promenade, il la tablait dans quelque cabaret de la banlieue. Ce jour-là, ils dînèrent au sommet des buttes, dans un restaurant dont les fenêtres s'ouvraient sur Paris, sur cet océan de maisons aux toits bleuâtres, pareils à des flots pressés emplissant l'immense horizon. Leur table était placée devant une des fenêtres. Ce spectacle des toits de Paris égaya sa carte. Au dessert, il fit apporter une bouteille de Bourgogne. Il souriait à l'espace, il était d'une galanterie inusitée. Et ses regards, amoureusement, redescendaient toujours sur cette mer vivante et pullulante d'où sortait la voix profonde des foules. On était à l'automne, la ville sous le grand ciel pâle s'alanguissait, d'un gris doux et tendre, piqué çà et là de verdure sombre, qui ressemblait à de larges feuilles de nénuphar nageant sur un lac. Le soleil se couchait dans un nuage rouge et, tandis que les fonds s'emplissaient d'une brume légère, une poussière d'or, une rosée d'or tombait sur la rive droite de la ville, du côté de la Madeleine et des Tuileries. C'était comme le coin enchanté d'une cité des mille et une nuits. Aux arbres d'émeraude, aux toits de saphir, aux girouettes de rubis. Il vint un moment où le rayon qui glissait entre deux nuages fut si resplendissant que les maisons semblèrent flamber et se fondre comme un lingot d'or dans un creuset. « Oh, vois !» dit Saccard avec un rire d'enfant. « Il pleut des pièces de 20 francs dans Paris !» Angèle se mit à rire à son tour en accusant ces pièces-là de n'être pas faciles à ramasser. Mais son mari s'était levé et, s'accoudant sur la rampe de la fenêtre, « C'est la colonne Vendôme, n'est-ce pas, qui brille là-bas? Ici, plus à droite, voilà la Madeleine. Un beau quartier où il y a beaucoup à faire. Ah, cette fois, tout va brûler, vois-tu ? On dirait que le quartier bout dans l'alambic de quelque chimiste. » Sa voix demeurait grave et émue. La comparaison qu'il avait trouvée parut le frapper beaucoup. Il avait bu du Bourgogne, il s'oublia. Il continua, étendant le bras pour montrer Paris à Angèle, qui s'était également accoudée à son côté. « Oui, oui, j'ai bien dit !» Plus d'un quartier va fondre, et il restera de l'or aux doigts des gens qui chaufferont et remueront la cuve. Ce grand innocent de Paris, vois donc comme il est immense et comme il s'endort doucement. C'est bête, ces grandes villes. Il ne se doute guère de l'armée de pioches qu'il attaquera un de ces beaux matins. Et certains hôtels de la rue d'Anjou ne reluiraient pas si fort sous le soleil couchant, s'ils savaient qu'ils n'ont plus que 3 ou 4 ans à vivre. » Angèle croyait que son mari plaisantait. Il avait parfois le goût de la plaisanterie colossale et inquiétante. Elle riait, mais avec un vague effroi, de voir ce petit homme se dresser au-dessus du géant couché à ses pieds et lui montrer le poing en pinçant ironiquement les lèvres. « On a déjà commencé. » continua-t-il. « Mais ce n'est qu'une misère. Regarde là-bas, du côté des Halles, on a coupé Paris en 4. » Et de sa main étendue, ouverte et tranchante comme un coutelas, il fit signe de séparer la ville en 4 parts. « Tu veux parler de la rue de Rivoli et du nouveau boulevard que l'on perce ?» demanda sa femme. « Oui, la grande croisée de Paris, comme ils disent. » Il dégage le Louvre et l'hôtel de ville. Jeu d'enfant que cela. C'est bon pour mettre le public en appétit. Quand le premier réseau sera fini, Alors commencera la grande danse. Le second réseau trouera la ville de toutes parts pour rattacher les faubourgs au premier réseau. Les tronçons agoniseront dans le plâtre. Tiens, suis un peu ma main. Du boulevard du Temple à la barrière du trône, une entaille. Puis de ce côté, une autre entaille, de la Madeleine à la plaine Monceau. Et une troisième entaille dans ce sens. Une autre dans celui-ci, une entaille là, une entaille plus loin, des entailles partout. Paris haché à coups de sabre, les veines ouvertes, nourrissant 100 000 terrassiers et maçons, traversés par d'admirables voies stratégiques qui mettront les forts au cœur des vieux quartiers. La nuit venait. Sa main, sèche et nerveuse, coupait toujours dans le vide. Angèle avait un léger frisson devant ce couteau vivant, ses doigts de fer qui hachaient sans pitié l'amas sans bornes des toits sombres. Depuis un instant, les brumes de l'horizon roulaient doucement des hauteurs, et elle s'imaginait entendre, sous les ténèbres qui s'amassaient dans les creux, de lointains craquements, comme si la main de son mari eût réellement fait les entailles dont il parlait, crevant Paris d'un bout à l'autre, brisant les poutres, écrasant les moellons, laissant derrière elle de longues et affreuses blessures de murs croulants. La petitesse de cette main, s'acharnant sur une proie géante, finissait par inquiéter. Et tandis qu'elle déchirait sans effort les entrailles de l'énorme ville, on eût dit qu'elle prenait un étrange reflet d'acier dans le crépuscule bleuâtre. Il y aura un troisième réseau, continua Saccard, au bout d'un silence, comme se parlant à lui-même. Celui-là est trop lointain, je le vois moins. Je n'ai trouvé que peu d'indices, mais ce sera la folie pure, le galop infernal des millions, Paris saoulé et assommé. Il se tut de nouveau, les yeux fixés ardemment sur la ville, où les ombres roulaient de plus en plus épaisses. Il devait interroger cet avenir trop éloigné qui lui échappait. Puis, la nuit se fit, la ville devint confuse, on l'entendit respirer largement, comme une mer dont on ne voit plus que la crête pâle des vagues. Ça et là, quelques murs blanchissaient encore, et, une à une, les flammes jaunes des becs de gaz piquèrent les ténèbres, pareilles à des étoiles s'allumant dans le noir d'un ciel d'orage. Angèle secoua son malaise et reprit la plaisanterie que son mari avait faite au dessert. « Ah, bien !» dit-elle avec un sourire. « Il en est tombé de ces pièces de 20 francs. Voilà les Parisiens qui les comptent. Regarde donc les belles piles qu'on aligne à nos pieds. » Elle montrait les rues qui descendent en face des buttes Montmartre et dont les becs de gaz semblaient empiler sur deux rangs leurs taches d'or. « Et là-bas » s'écria-t-elle en désignant du doigt un fourmillement d'astres. « C'est sûrement la caisse générale !» Ce mot fit rire Saccard. Ils restèrent encore quelques instants à la fenêtre, ravis de ce ruissellement de pièces de 20 francs. Qui finit par embraser Paris entier. L'agent voyé, en descendant de Montmartre, se repentit sans doute d'avoir tant causé. Il accusa le Bourgogne et pria sa femme de ne pas répéter les bêtises qu'il avait dites. Il voulait, disait-il, être un homme sérieux. Saccard, depuis longtemps, avait étudié ces trois réseaux de rues et de boulevards, dont il s'était oublié à exposer assez exactement le plan devant Angèle. Quand cette dernière mourut, il ne fut pas fâché qu'elle emportât dans la terre ses bavardages des buttes Montmartre. Là était sa fortune, dans ces fameuses entailles que sa main avait faites au cœur de Paris. Et il l'entendait ne partager son idée avec personne, sachant qu'au jour du butin, il y aurait bien assez de corbeaux planant au-dessus de la ville éventrée. Son premier plan était d'acquérir à bon compte quelque immeuble qu'il saurait à l'avance condamné à une expropriation prochaine, et de réaliser un gros bénéfice en obtenant une forte indemnité. Il se serait peut-être décidé à tenter l'aventure sans un sou, à acheter l'immeuble à crédit pour ne toucher ensuite qu'une différence, comme à la bourse, lorsqu'il se remaria, moyennant cette prime de 200 000 francs qui fixa et agrandit son plan. Maintenant, ses calculs étaient faits. Il achetait à sa femme, sous le nom d'un intermédiaire, sans paraître aucunement, la maison de la rue de la Pépinière, et triplait sa mise de fonds grâce à sa science acquise dans les couloirs de l'hôtel de ville et à ses bons rapports avec certains personnages influents. S'il avait tressailli lorsque la tante Élisabeth lui avait indiqué l'endroit où se trouvait la maison, c'est qu'elle était située au beau milieu du tracé d'une voie dont on ne causait encore que dans le cabinet du préfet de la Seine. Cette voie, le boulevard Malesherbes, l'emportait tout entière. C'était un ancien projet de Napoléon Ier qu'on songeait à mettre à exécution pour donner, disaient les gens graves, un débouché normal à des quartiers perdus derrière un dédale de rues étroites sur les escarpements des coteaux qui limitaient Paris. Cette phrase officielle n'avouait naturellement pas l'intérêt que l'Empire avait à la danse des écus, à ses déblais et à ses remblais formidables qui tenaient les ouvriers en haleine. Saccard s'était permis, un jour, de consulter chez le préfet ce fameux plan de Paris sur lequel une main auguste avait tracé à l'encre rouge les principales voies du deuxième réseau. Ces sanglants traits de plume en taillaient Paris plus profondément encore que la main de l'agent voyait. Le boulevard Malesherbes, qui abattait des hôtels superbes dans les rues d'Anjou et de la ville l'Évêque, et qui nécessitait des travaux de terrassement considérables, devait être troué un des premiers. Quand Saccard alla visiter l'immeuble de la rue de la Pépinière, il songea à cette soirée d'automne, à ce dîner qu'il avait fait avec Angèle sur les buttes Montmartre, et pendant lequel il était tombé, au soleil couchant, une pluie si drue de louis d'or sur le quartier de la Madeleine. Il sourit. Il pensa que le nuage radieux avait crevé chez lui, dans sa cour, et qu'il allait ramasser les pièces de 20 francs. Tandis que René, installé luxueusement dans l'appartement de la rue de Rivoli, au milieu de ce Paris nouveau dont elle allait être une des reines, méditait ses futures toilettes et s'asseyait à sa vie de grande mondaine, son mari soignait dévotement sa première grande affaire. Il lui achetait d'abord la maison de la rue de la Pépinière, grâce à l'intermédiaire d'un certain Larsonneau qu'il avait rencontré furetant comme lui dans les bureaux de l'hôtel de ville, mais qui avait eu la bêtise de se laisser surprendre un jour qu'il visitait les tiroirs du préfet. Larsonneau s'était établi agent d'affaires, au fond d'une cour noire et humide du bas de la rue Saint-Jacques. Son orgueil, ses convoitises, y souffraient cruellement. Il se trouvait au même point que Saccard avant son mariage. Il avait, disait-il, inventé lui aussi une machine à pièces de 100 sous. Seulement, les premières avances lui manquaient pour tirer parti de son invention. Il s'entendit à demi-mot avec son ancien collègue, et il travailla si bien qu'il eut la maison pour 150 000 francs. René, au bout de quelques mois, avait déjà de gros besoins d'argent. Le mari n'intervint que pour autoriser sa femme à vendre. Quand le marché fut conclu, elle le pria de placer en son nom 100 000 francs qu'elle lui remit en toute confiance, pour le toucher sans doute et lui faire fermer les yeux sur les 50 000 francs qu'elle gardait en poche. Il sourit d'un air fin. Il entrait dans ses calculs qu'elle jeta l'argent par les fenêtres. Ces 50 000 francs, qui allaient disparaître en dentelles et en bijoux, devaient lui rapporter à lui le 100%. Il poussa l'honnêteté, tant il était satisfait de sa première affaire, jusqu'à placer réellement les 100 000 francs de René et à lui remettre les titres de rente. Sa femme ne pouvait les aliéner, il était certain de les retrouver au nid s'il en avait jamais besoin. « Ma chère, ce sera pour vos chiffons, » dit-il galamment. Quand il posséda la maison, il eut l'habileté, en un mois, de la faire revendre 2 fois à des prête-noms, en grossissant chaque fois le prix d'achat. Le dernier acquéreur ne la paya pas moins de 300 000 francs. Pendant ce temps, l'Arsenault, qui seul paraissait à titre de représentant des propriétaires successifs, travaillaient les locataires. Ils refusaient impitoyablement de renouveler les baux, à moins qu'on ne consentît à des augmentations formidables de loyers. Les locataires, qui avaient vent de l'expropriation prochaine, étaient au désespoir. Ils finissaient par accepter l'augmentation, surtout lorsque l'Arsenault ajoutait, d'un air conciliant, que cette augmentation serait fictive pendant les 5 premières années. Quant aux locataires qui firent les méchants, ils furent remplacés par des créatures auxquelles on donna le logement pour rien et qui signèrent tout ce qu'on voulut. Là, il y eut double bénéfice. Le loyer fut augmenté et l'indemnité réservée au locataire pour son bail dut revenir à sa carte. Madame Sidonie voulut aider son frère en établissant dans une des boutiques du rez-de-chaussée un dépôt de piano. Ce fut à cette occasion que Saccard et l'Arsenault, pris de fièvre, allèrent un peu loin. Ils inventèrent des livres de commerce. Ils falsifièrent les écritures pour établir la vente des pianos sur un chiffre énorme. Pendant plusieurs nuits, ils griffonnèrent ensemble. Ainsi travaillée, la maison tripla de valeur. Grâce au dernier acte de vente, grâce aux augmentations de loyer, aux faux locataires et au commerce de Madame Sidonie, elle pouvait être estimée à 500 000 francs devant la commission des indemnités. Les rouages de l'expropriation, de cette machine puissante qui pendant 15 ans a bouleversé Paris, soufflant la fortune et la ruine, sont des plus simples. Dès qu'une voie nouvelle est décrétée, les agents voyers dressent le plan parcellaire et évalue les propriétés. D'ordinaire, pour les immeubles, après enquête, ils capitalisent l'allocation totale et peuvent ainsi donner un chiffre approximatif. La commission des indemnités, composée de membres du conseil municipal, fait toujours une offre inférieure à ce chiffre, sachant que les intéressés réclameront davantage et qu'il y aura concession mutuelle. Quand ils ne peuvent s'entendre, l'affaire est portée devant un jury qui se prononce souverainement sur l'offre de la ville et la demande du propriétaire ou du locataire exproprié. Saccard, resté à l'hôtel de ville pour le moment décisif, eut un instant l'impudence de vouloir se faire désigner, lorsque les travaux du boulevard Malesherbes commencèrent, et d'estimer lui-même sa maison. Mais il craignit de paralyser par là son influence sur les membres de la commission des indemnités. Il fit choisir un de ses collègues, un jeune homme doux et souriant, nommé Michelin, et dont la femme, d'une adorable beauté, venait parfois excuser son mari auprès de ses chefs lorsqu'il s'absentait pour cause d'indisposition. Il était indisposé très souvent. Saccard avait remarqué que la jolie Madame Michelin, qui se glissait si humblement par les portes entrebâillées, était une toute-puissance. Michelin gagnait de l'avancement à chacune de ses maladies. Il faisait son chemin en se mettant au lit. Pendant une de ses absences, comme il envoyait sa femme presque tous les matins à donner de ses nouvelles à son bureau, Saccard le rencontra 2 fois sur les boulevards extérieurs, fumant un cigare, de l'air tendre et ravi qui ne le quittait jamais. Cela lui inspira de la sympathie pour ce bon jeune homme, pour cet heureux ménage si ingénieux et si pratique. Il avait l'admiration de toutes les machines à pièces de 100 sous, habilement exploitées. Quand il eut fait désigner Michelin, il alla voir sa charmante femme, voulut la présenter à René, parla devant elle de son frère le député, l'illustre orateur. Madame Michelin comprit. À partir de ce jour, son mari garda pour son collègue ses sourires les plus recueillis. Celui-ci, qui ne voulait pas mettre le digne garçon dans ses confidences, se contenta de se trouver là, comme par hasard, le jour où il procéda à l'évaluation de l'immeuble de la rue de la Pépinière. Il l'aida. Michelin, la tête la plus nulle et la plus vide qu'on put imaginer, se conforma aux instructions de sa femme qui lui avait recommandé de contenter M. Saccard en toute chose. Il ne soupçonna rien, d'ailleurs. Il crut que l'agent voyer était pressé de lui faire bâcler sa besogne pour l'emmener au café. Les baux, les quittances de loyer, les fameux livres de Mme Sidonie passèrent des mains de son collègue sous ses yeux sans qu'il eût le temps seulement de vérifier les chiffres, que celui-ci énonçait tout haut. L'Arsenal était là, qui traitait son complice en étranger. « Allez, mettez 500 000 francs, finit par dire Saccard. La maison vaut davantage. Dépêchons, je crois qu'il va y avoir un mouvement du personnel à l'hôtel de ville, et je veux vous en parler pour que vous préveniez votre femme. » L'affaire fut ainsi enlevée. Mais il avait encore des craintes. Il redoutait que ce chiffre de 500 000 francs ne parut un peu gros à la commission des indemnités pour une maison qui n'en valait notoirement que 200 000. La hausse formidable sur les immeubles n'avait pas encore eu lieu. Une enquête lui aurait fait courir le risque de sérieux désagréments. Il se rappelait cette phrase de son frère : « Pas de scandale trop bruyant ou je te supprime. » Et il savait Eugène, homme à exécuter sa menace. Il s'agissait de rendre aveugles et bienveillants ces messieurs de la commission. Il jeta les yeux sur deux hommes influents dont il s'était fait des amis par la façon dont il les saluait dans les corridors lorsqu'il les rencontrait. Les 36 membres du conseil municipal étaient choisis avec soin de la main même de l'empereur, sur la présentation du préfet, parmi les sénateurs, les députés, les avocats, les médecins, les grands industriels qui s'agenouillaient le plus dévotement devant le pouvoir. Mais, entre tous, le baron Gouraud et M. Toutain-Laroche méritaient la bienveillance des Tuileries par leur ferveur. Tout le baron Gouraud tenait dans cette courte biographie fait baron par Napoléon Ier, en récompense de biscuits avariés fournis à la grande armée. Il avait tour à tour été pair sous Louis XVIII, sous Charles X, sous Louis-Philippe, et il était sénateur sous Napoléon III. C'était un adorateur du trône, des quatre planches dorées recouvertes de velours. Peu lui importait l'homme qui s'y trouvait assis. Avec son ventre énorme, sa face de bœuf, son allure d'éléphant, il était d'une coquinerie charmante. Il se vendait avec majesté et commettait les plus grosses infamies au nom du devoir et de la conscience. Mais cet homme étonnait encore plus par ses vices. Il courait sur lui des histoires qu'on ne pouvait raconter qu'à l'oreille. Ses 78 ans fleurissaient en pleine débauche monstrueuse. À deux reprises, on avait dû étouffer de sales aventures pour qu'il n'allât pas traîner son habit brodé de sénateur sur les bancs de la cour d'assises. Monsieur Toutain-Laroche, grand et maigre, ancien inventeur d'un mélange de suif et de stéarine pour la fabrication des bougies, rêvait le Sénat. Il s'était fait l'inséparable du baron Gouraud. Il se frottait à lui, avec l'idée vague que cela lui porterait bonheur. Au fond, il était très pratique, et s'il eût trouvé un fauteuil de sénateur à acheter, il en aurait âprement débattu le prix. l'Empire allait mettre en vue cette nullité avide, ce cerveau étroit qui avait le génie des tripotages industriels. Il vendit le premier son nom à une compagnie véreuse, à une de ces sociétés qui poussèrent comme des champignons empoisonnés sur le fumier des spéculations impériales. On put voir, collée au mur à cette époque, une affiche portant en grosses lettres noires ces mots « Société Générale des Ports du Maroc » et dans laquelle le nom de M. Toutain Laroche, avec son titre de conseiller municipal, s'étalait en tête de liste des membres du conseil de surveillance, tous plus inconnus les uns que les autres. Ce procédé, dont on a abusé depuis, fit merveille. Les actionnaires accoururent, bien que la question des ports du Maroc fût peu claire, et que les braves gens qui apportaient leur argent ne pussent expliquer eux-mêmes à quelle œuvre on allait l'employer. L'affiche parlait superbement d'établir des stations commerciales le long de la Méditerranée. Depuis 2 ans, certains journaux célébraient cette opération grandiose qu'ils déclaraient plus prospère tous les 3 mois. Au conseil municipal, M. Toutain Laroche passait pour un administrateur de premier mérite. Il était une des fortes têtes de l'endroit, et sa tyrannie aigre sur ses collègues n'avait d'égal que sa platitude dévote devant le préfet. Il travaillait déjà à la création d'une grande compagnie financière, le Crédit Viticole, une caisse de prêts pour les vignerons, dont il parlait avec réticence, des attitudes graves qui allumaient autour de lui les convoitises des imbéciles. Saccard gagna la protection de ces deux personnages en leur rendant des services dont il feignit habilement d'ignorer l'importance. Il mit en rapport sa sœur et le baron, alors compromis dans une histoire des moins propres. Il la conduisit chez lui sous le prétexte de réclamer son appui en faveur de la chère femme qui pétitionnait depuis longtemps afin d'obtenir une fourniture de rideaux pour les Tuileries. Mais il advint, quand l'agent voyait les yeux laissés ensemble, que ce fut Madame Sidonie qui promit au baron de traiter avec certaines gens, assez maladroits pour ne pas être honorés de l'amitié qu'un sénateur avait daigné témoigner à leur enfant, une petite fille d'une dizaine d'années. Saccard agit lui-même auprès de M. Toutain Laroche. Il se ménagea une entrevue avec lui dans un corridor et mit la conversation sur le fameux crédit viticole. Au bout de 5 minutes, le grand administrateur, effaré, stupéfait des choses étonnantes qu'il entendait, prit sans façon l'employé à son bras et le retint pendant 1 heure dans le couloir. Saccard lui souffla des mécanismes financiers prodigieux d'ingéniosité. Quand M. Toutain Laroche le quitta, il lui serra la main d'une façon expressive, avec un clignement d'yeux franc-maçonnique. « Vous en serez » murmura-t-il. « Il faut que vous en soyez !» Il fut supérieur dans toute cette affaire. Il poussa la prudence jusqu'à ne pas rendre le baron Gouraud et M. Toutain Laroche complices l'un de l'autre. Il les visita séparément, leur glissa un mot à l'oreille en faveur d'un de ses amis qui allait être exproprié rue de la Pépinière. Il eut bien soin de dire à chacun des 2 compères qu'il ne parlerait de cette affaire à aucun autre membre de la commission, que c'était une chose en l'air, mais qu'il comptait sur toute sa bienveillance. L'agent voyait avait eu raison de craindre et de prendre ses précautions. Quand le dossier relatif à son immeuble arriva devant la commission des indemnités, il se trouva justement qu'un des membres habitait la rue d'Astorgue et connaissait la maison. Ce membre se récria sur le chiffre de 500 000 francs que, selon lui, on devait réduire de plus de la moitié. Aristide avait eu l'impudence de faire demander 700 000 francs. Ce jour-là, M. Toutain Laroche, d'ordinaire très désagréable pour ses collègues, était d'une humeur plus massacrante encore que de coutume. Il se fâcha, il prit la défense des propriétaires. « Nous sommes tous propriétaires, messieurs » criait-il. « L'empereur veut faire de grandes choses, ne lésinons pas sur des misères. Cette maison doit valoir les 500 000 francs. C'est un de nos hommes, un employé de la ville, qui a fixé ce chiffre. Vraiment, on dirait que nous vivons dans la forêt de Bondy. Vous verrez que nous finirons par nous soupçonner entre nous. » Le baron Gouraud, appesanti sur son siège, regardait du coin de l'œil, d'un air surpris, M. Toutain Laroche jetant feu et flamme en faveur du propriétaire de la rue de la Pépinière. Il eut un soupçon. Mais, en somme, comme cette sortie violente le dispensait de prendre la parole, il se mit à hocher doucement la tête en signe d'approbation absolue. Le membre de la rue d'Astorgue résistait, révolté, ne voulant pas plier devant les deux tyrans de la commission dans une question où il était plus compétent que ces messieurs. Ce fut alors que M. Toutain Laroche, ayant remarqué les signes approbatifs du baron, s'empara vivement du dossier et dit d'une voix sèche : « C'est bien, nous éclaircirons vos doutes. Si vous le permettez, je me charge de l'affaire, et le baron Gouraud fera l'enquête avec moi. » « Oui, oui, » dit gravement le baron, « rien de louche ne doit entacher nos décisions. » Le dossier avait déjà disparu dans les vastes poches de M. Toutain Laroche. La commission dut s'incliner. Sur le quai, comme il sortait, les deux compères se regardèrent sans rire. Ils se sentaient complices, ce qui redoublait leur aplomb. Deux esprits vulgaires eussent provoqué une explication. Eux continuèrent à plaider la cause des propriétaires comme si on eût pu les entendre encore et à déplorer l'esprit de méfiance qui se glissait partout. Au moment où ils allaient se quitter, « Ah, j'oubliais, mon cher collègue, » dit le baron avec un sourire. « Je pars tout à l'heure pour la campagne. Vous seriez bien aimable d'aller faire sans moi cette petite enquête. Et surtout, ne me vendez pas. « Ces messieurs se plaignent de ce que je prends trop de vacances. »« Soyez tranquille, » répondit M. Toutain Laroche, « je vais de ce pas rue de la Pépinière. » Il rentra tranquillement chez lui, avec une pointe d'admiration pour le baron qui dénouait si joliment les situations délicates. Il garda le dossier dans sa poche et, à la séance suivante, il déclara, d'un ton péremptoire, au nom du baron et au sien, qu'entre l'offre de 500 000 francs et la demande de 700 000 francs, il fallait prendre un moyen terme et accorder 600 000 francs. Il n'y eut pas la moindre opposition. Le membre de la rue d'Astorgue, qui avait réfléchi sans doute, dit avec une grande bonhomie qu'il s'était trompé. Il avait cru qu'il s'agissait de la maison voisine. Ce fut ainsi qu'Aristide Saccard remporta sa première victoire. Il quadrupla sa mise de fonds et gagna 2 complices. Une seule chose l'inquiéta. Lorsqu'il voulut anéantir les fameux livres de Madame Sidonie, il ne les trouva plus. Il courut chez Larsonneau, qui lui avoua carrément qu'il les avait, en effet, et qu'il les gardait. L'autre ne se fâcha pas. Il sembla dire qu'il n'avait eu de l'inquiétude que pour ce cher ami, beaucoup plus compromis que lui par ses écritures presque entièrement de sa main, mais qu'il était rassuré du moment où elle se trouvait en sa possession. Au fond, il eût volontiers étranglé le cher ami. Il se souvenait d'une pièce fort compromettante, d'un inventaire faux qu'il avait eu la bêtise de dresser et qui devait être resté dans l'un des registres. Larsonneau, payé grassement, alla monter un cabinet d'affaires rue de Rivoli, où il eut des bureaux meublés avec le luxe d'un appartement de fille. Saccard, après avoir quitté l'hôtel de ville, pouvant mettre en branle un roulement de fonds considérable, se lança dans la spéculation à outrance. Tandis que René, grisée, folle, emplissait Paris du bruit de ses équipages, de l'éclat de ses diamants du vertige de sa vie adorable et tapageuse. Parfois, le mari et la femme, ces deux fièvres chaudes de l'argent et du plaisir, allaient dans les brouillards glacés de l'île Saint-Louis. Il leur semblait qu'ils entraient dans une ville morte. L'hôtel Béraud, bâti vers le commencement du XVIIe siècle, était une de ces constructions carrées, noires et graves, aux étroites et hautes fenêtres, nombreuses au marais, et qu'on loue à des pensionnats, à des fabricants d'eau de Seltz, à des entrepositaires de vins et d'alcool. Seulement, il était admirablement conservé. Sur la rue Saint-Louis-en-Lille, il n'avait que 3 étages, des étages de 15 à 20 pieds de hauteur. Le rez-de-chaussée, plus écrasé, était percé de fenêtres garnies d'énormes barres de fer, s'enfonçant lugubrement dans la sombre épaisseur des murs, et d'une porte arrondie, presque aussi haute que large, à marteau de fonte, peinte en gros vert et garnie de clous énormes qui dessinaient des étoiles et des losanges sur les 2 vantaux. Cette porte était typique, avec les bornes qui la flanquaient, renversées à demi et largement cerclées de fer. On voyait qu'anciennement, on avait ménagé le lit d'un ruisseau au milieu de la porte, entre les pentes légères du caillotage du porche. Mais M. Béraud s'était décidé à boucher ce ruisseau en faisant bitumer l'entrée. Ce fut d'ailleurs le seul sacrifice aux architectes modernes qu'il accepta jamais. Les fenêtres des étages étaient garnies de minces rampes de fer forgé, laissant voir leurs croisées colossales à forte boiserie brune et à petits carreaux verdâtres. En haut, devant les mansardes, le toit s'interrompait. La gouttière continuait seule son chemin pour conduire les eaux de pluie aux tuyaux de descente. Et ce qui augmentait encore la nudité austère de la façade, c'était l'absence absolue de persiennes et de jalousies, le soleil ne venant en aucune saison sur ces pierres pâles et mélancoliques. Cette façade, avec son air vénérable, sa sévérité bourgeoise, dormait solennellement dans le recueillement du quartier, dans le silence de la rue que les voitures ne troublaient guère. À l'intérieur de l'hôtel se trouvait une cour carrée, entourée d'arcades, une réduction de la place royale, d'allées d'énormes pavés, ce qui achevait de donner à cette maison morte l'apparence d'un cloître. En face du porche, une fontaine, une tête de lion à demi effacée, et dont on ne voyait plus que la gueule entr'ouverte, jetait, par un tube de fer, une eau lourde et monotone, dans une auge verte de mousse, polie sur les bords par l'usure. Cette eau était glaciale. Des herbes poussaient entre les pavés. L'été, un mince coin de soleil descendait dans la cour, et cette visite rare avait blanchi un angle de la façade, au midi, tandis que les 3 autres pans, moroses et noirâtres, étaient zébrés de moisissures. Là, au fond de cette cour, fraîche et muette comme un puits, éclairée d'un jour blanc d'hiver, on se serait cru à 1000 lieues de ce nouveau Paris où flambaient toutes les chaudes jouissances dans le vacarme des millions. Les appartements de l'hôtel avaient le calme triste, la solennité froide de la cour, desservie par un large escalier à rampe de fer où les pas et la toux des visiteurs sonnaient comme sous une voûte d'église. Il s'étendait en longues enfilades de vastes et hautes pièces dans lesquelles se perdaient de vieux meubles de bois sombre et trapu. Et le demi-jour n'était peuplé que par les personnages des tapisseries dont on apercevait vaguement les grands corps blêmes. Tout le luxe de l'ancienne bourgeoisie parisienne était là, un luxe inusable et sans mollesse. Des sièges dont le chêne est recouvert à peine d'un peu d'étoupe, des lits aux étoffes rigides, des bahuts à linge où la rudesse des planches compromettrait singulièrement la frêle existence des robes modernes. M. Béraud du Châtel avait choisi son appartement dans la partie la plus noire de l'hôtel, entre la rue et la cour, au premier étage. Il se trouvait là, dans un cadre merveilleux de recueillement, de silence et d'ombre. Quand il poussait les portes, traversant la solennité des pièces de son pas lent et grave, on l'eût pris pour un de ces membres des vieux parlements dont on voyait les portraits accrochés au mur, rentrant chez lui tout songeur, après avoir discuté et refusé de signer un édit du roi. Mais dans cette maison morte, dans ce cloître, il y avait un nid chaud et vibrant, un trou de soleil et de gaieté, un coin d'adorable enfance, de grand air, de lumière large. Il fallait monter une foule de petits escaliers, filer le long de 10 à 12 corridors, redescendre, remonter encore, faire un véritable voyage. Et l'on arrivait enfin à une vaste chambre, à une sorte de belvédère bâti sur le toit, derrière l'hôtel, au-dessus du quai de Béthune. Elle était en plein midi. La fenêtre s'ouvrait si grande que le ciel, avec tous ses rayons, tout son air, tout son bleu, semblait y entrer. Perchée comme un pigeonnier, elle avait de longues caisses de fleurs, une immense volière et pas un meuble. On avait simplement étalé une natte sur le carreau. C'était la chambre des enfants. Dans tout l'hôtel, on la connaissait, on la désignait sous ce nom. La maison était si froide, la cour si humide, que la tante Élisabeth avait redouté pour Christine et Renée ce souffle frais qui tombait des murs. Maintes fois, elle avait grondé les gamines qui couraient sous les arcades et qui prenaient plaisir à tremper leurs petits bras dans l'eau glacée de la fontaine. Alors, l'idée lui était venue de faire disposer pour elle ce grenier perdu, le seul coin où le soleil entra et se réjouit, solitaire, depuis bientôt 2 siècles, au milieu d'étoiles d'araignée. Elle leur donna une natte, des oiseaux, des fleurs. Les gamines furent enthousiasmées. Pendant les vacances, Renée vivait là, dans le bain jaune de ce bon soleil, qui semblait heureux de la toilette qu'on avait faite à sa retraite et des 2 têtes blondes qu'on lui envoyait. La chambre devint un paradis, toute résonnante du chant des oiseaux et du babil des petites. On la leur avait cédée en toute propriété. Elles disaient « notre chambre ». Elles étaient chez elles. Elles allaient jusqu'à s'y enfermer à clé pour se bien prouver qu'elles en étaient les uniques maîtresses. Quel coin de bonheur! Un massacre de joujoux râlés sur la natte dans le soleil clair. Et la grande joie de la chambre des enfants était encore le vaste horizon. Des autres fenêtres de l'hôtel, on ne voyait en face de soi que des murs noirs à quelques pieds. Mais de celle-ci, on apercevait tout ce bout de Seine, tout ce bout de Paris qui s'étend de la cité au pont de Bercy, plat et immense, et qui ressemble à quelque originale cité de Hollande. En bas, sur le quai de Béthune, il y avait des baraques de bois à moitié effondrées, des entassements de poutres et de toits crevés, parmi lesquels les enfants s'amusaient souvent à regarder courir des rats énormes qu'elles redoutaient vaguement de voir grimper le long des hautes murailles. Mais au-delà, l'enchantement commençait. L'estacade, étageant ses madriers, ses contreforts de cathédrales gothiques, et le pont de Constantine, léger, se balançant comme une dentelle sous les pieds des passants, se coupait à angle droit, paraissait barrer et retenir la masse énorme de la rivière. En face, les arbres de la Halle aux Vins, et plus loin, les massifs du Jardin des Plantes, verdissaient, s'étalaient jusqu'à l'horizon. Tandis que, de l'autre côté de l'eau, le quai Henri IV, et le quai de la Râpée alignaient leurs constructions basses et inégales, leurs rangées de maisons qui, de haut, ressemblaient aux petites maisons de bois et de carton que les gamines avaient dans des boîtes. Au fond, à droite, le toit ardoisé de la salpêtrière bleuissait au-dessus des arbres. Puis, au milieu, descendant jusqu'à la Seine, les larges berges pavées faisaient deux longues routes grises que tachaient çà et là la marbrure d'une file de tonneaux, d'un chariot attelé, d'un bateau de bois ou de charbon vidé à terre. Mais l'âme de tout cela, l'âme qui emplissait le paysage, c'était la Seine, la rivière vivante. Elle venait de loin, du bord vague et tremblant de l'horizon. Elle sortait de là-bas, du rêve, pour couler droit aux enfants, dans sa majesté tranquille, dans son gonflement puissant, qui s'épanouissait, s'élargissait en nappe à leurs pieds, à la pointe de l'île. Les deux ponts qui la coupaient, le pont de Bercy et le pont d'Austerlitz, semblaient des arrêts nécessaires, chargés de la contenir, de l'empêcher de monter jusque dans la chambre. Les petites aimaient la géante. Elles s'emplissaient les yeux de sa coulée colossale, de cet éternel flot grondant qui roulait vers elles, comme pour les atteindre, et qu'elles sentaient se fendre et disparaître à droite et à gauche dans l'inconnu, avec une douceur de titan dompté. Par les beaux jours, par les matinées de ciel bleu, elles se trouvaient ravies des belles robes de la Seine. C'étaient des robes changeantes qui passaient du bleu au vert avec mille teintes d'une délicatesse infinie. On aurait dit de la soie mouchetée de flammes blanches avec des ruches de satin. Et les bateaux qui s'abritaient aux deux rives la bordaient d'un ruban de velours noir. Au loin surtout, l'étoffe devenait admirable et précieuse, comme la gaze enchantée d'une tunique de fée. Après la bande de satin gros vert, dont l'ombre des ponts serrait la Seine, il y avait des plastrons d'or, des pans d'une étoffe plissée couleur de soleil. Le ciel immense sur cette eau, ses files basses de maisons, ses verdures des deux parcs se creusaient. Parfois, René, lasse de cet horizon sans bornes, grande déjà, et rapportant du pensionnat des curiosités charnelles, jetait un regard dans l'école de natation des Bains Petits, dont le bateau se trouve amarré à la pointe de l'île. Elle cherchait à voir, entre les linges flottants pendus à des ficelles en guise de plafond, les hommes en caleçon dont on apercevait les ventres nus.